13h ici à Paris, 7h à Washington. Bonjour à tous.
Karine Bellichat.
À la une, l'Europe pourra-t-elle résister à la pression américaine en lui mettant la pression à son tour? La question se pose au lendemain des menaces de Donald Trump d'imposer dans une semaine une surtaxe de 50% sur les produits des 27 exportés aux États-Unis. En Équateur, le Congrès investit le président Daniel Noboa aujourd'hui pour un mandat de 4 ans. Les électeurs attendent des résultats dans la lutte contre la violence et la corruption. Et puis le PSG pourrait soulever la coupe ce soir, celle du championnat de France, une semaine avant le grand rendez-vous de la finale de la Ligue des Champions. Coup de pression finale ou annonce ferme, difficile de le savoir encore, mais Donald Trump a brandi de nouvelles menaces sur les droits douaniers en ciblant l'Union européenne qui serait visée par une surtaxe de 50% sur ses produits exportés aux États-Unis à compter du 1er juin. Les marchés du vieux continent ont été secoués, mais l'Union européenne a les moyens de tenir bon, estime Damien Leda, directeur de la gestion chez Galilée à Management.
L'Europe a des moyens, puisque c'est un poids économique ultra important, hein, ça reste un des plus grands blocs économiques au monde avec un pouvoir d'achat qui est massif, un excédent commercial qui est significatif vis-à-vis des États-Unis. L'Union européenne peut exercer tout à fait des pressions crédibles sur des entreprises américaines qui exporteraient vers l'Europe. On a des entreprises américaines qui sont fortement exposées à l'Europe, hein, notamment dans les secteurs de la technologie, de l'agriculture, de l'aviation. Donc, des conséquences économiques pourraient y en avoir et elles pourraient être importantes si l'Union européenne réagissait de la même manière. Il faut pas céder, mais néanmoins trouver un accord quelque part win-win, gagnant-gagnant, serait quand même la meilleure porte de sortie dans un contexte où ces deux zones économiques majeures pourraient faire craindre un risque de ralentissement économique, voire de récession.
Damien Leda, directeur de la gestion chez Galilée Asset Management, interrogé par Altine Lazage. Hong Kong ouvre ses portes aux étudiants étrangers qui renonceraient à aller à Harvard. La ville chinoise promet d'ores et déjà des procédures d'admission simplifiées. L'administration américaine entend retirer l'autorisation d'accueillir des jeunes du monde entier à la prestigieuse université. Un recours de la faculté devant la justice bloque pour le moment cette décision. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, se dit préoccupé après une vague de répression au Venezuela. Comme 70 militants, l'un des dirigeants de l'opposition, Juan Pablo Guanipa, a été arrêté. Très proche collaborateur de la dirigeante de l'opposition, Maria Corina Machado. Des interpellations qui interviennent juste avant les élections législatives et régionales demain. Après avoir terminé les 18 mois de mandat de l'ancien président Guillermo Lasso, Daniel Noboa commence aujourd'hui un mandat complet de 4 ans en Équateur, après sa victoire lors de la récente présidentielle avec plus de 55% des suffrages. Près de 70 délégations sont attendues à Quito pour son investiture par le Congrès et les défis qui l'attendent sont grands. La correspondance d'Éric Sanson.
Il y a un an, le président Noboa venait à peine de lancer un conflit interne armé contre des dizaines de groupes armés et mafias. Le pays était plongé dans des coupures d'électricité massives et l'opposition dominait l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le mouvement officialiste Action démocratique nationale domine le Congrès. Les coupures d'électricité ont été évitées. De nombreux électeurs, comme la musicienne Paulina Iniguez, attendent maintenant des résultats rapides, notamment dans la lutte contre la délinquance.
Je ne sais pas si on pourra éliminer complètement la violence, mais il faut diminuer le pouvoir des mafias qui s'infiltrent dans la justice, les entreprises et le monde politique.
Et les chiffres de cette année ne sont pas bons. De janvier à mars, 2361 homicides ont eu lieu selon le ministère de l'Intérieur, 65% de plus que lors du premier trimestre 2024. Des chiffres que le président Noboa doit assumer, selon le politologue Gustavo Hisch.
Aujourd'hui, le président Noboa n'a plus d'excuses pour ne pas gouverner. Le gouvernement ne pourra pas accuser les gouvernements antérieurs, le boycott de l'Assemblée nationale, l'insécurité ou la fragmentation politique, car il a les mains libres.
Le président Noboa l'a d'ailleurs bien compris, lui qui attend l'approbation rapide de son projet de loi contre l'économie criminelle. Éric Sanson, Quito, RFI.
Aucun cessez-le-feu à l'horizon en Ukraine. L'armée russe poursuit son offensive. Kiev affirme avoir abattu 6 missiles et plus de 200 drones la nuit dernière. L'attaque a surtout visé la capitale ukrainienne, faisant au moins 15 blessés. Seul résultat tangible des négociations à Istanbul, Moscou et Kiev échangent un nombre record de prisonniers d'ici à la fin du week-end. 1000 personnes au total. 307 d'entre eux ont regagné leur pays respectif aujourd'hui. Pendant ce temps, le chef de la diplomatie russe promet que Moscou travaille sur un document résumant ses demandes pour un cessez-le-feu durable. Il sera transmis à l'Ukraine une fois l'échange de prisonniers finalisé. Kiev doit faire de même. Dans la bande de Gaza, le peu de nourriture qui entre ne suffit pas, loin de là, à couvrir les besoins d'une population bombardée quotidiennement et affamée. Face à la pénurie, 15 camions du programme alimentaire mondial ont été pillés dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'enclave palestinienne. L'agence de l'ONU exhorte Israël à laisser passer des volumes beaucoup plus importants d'aide pour venir en aide aux civils. Et les frappes de l'État hébreu se poursuivent, déjà au moins 6 morts dans la matinée. Il avait photographié comme personne les guerres, les exodes, les tragédies humaines. Le génocide au Rwanda l'avait totalement dévasté. Sebastião Salgado s'en est allé hier. À 81 ans, Edmond Sadaka dresse le portrait de l'immense photographe franco-brésilien.
De la nature triomphante des forêts équatoriales aux tragédies humaines les plus terribles, Sebastião Salgado a tout vu et a tout montré. Pour lui, la consécration mondiale est venue en 1986 avec ses photos iconiques de la fourmilière humaine de la Serra Pelada au Brésil, la plus grande mine d'or à ciel ouvert du monde. Là-bas, il a côtoyé pendant 35 jours des orpailleurs recouverts de boue. Salgado travaillait presque exclusivement en noir et blanc. Il aimait les projets gigantesques qui s'étalaient sur plusieurs années. C'était en quelque sorte sa marque de fabrique, selon le photographe Jean-Christophe Béchet, auteur d'une trentaine d'ouvrages spécialisés sur la photographie.
Il a réinventé une forme de photojournalisme, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un seul reportage, il créait 40, 50, 60 reportages sur la même thématique. Donc en fait, il est passé à une échelle un peu planétaire du reportage avec des projets gigantesques.
Durant sa carrière, démarrée dans les années 70, Sebastião Salgado a également sublimé de magnifiques paysages, comme les rivières volantes d'Amazonie, des photos en forme de plaidoyer pour la préservation de l'environnement. C'était l'un de ses grands combats.
Du football à présent, une première finale, celle de la Coupe de France pour le Paris Saint-Germain, histoire d'entretenir la dynamique avant celle de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Le PSG affronte Reims aujourd'hui au Stade de France pour tenter de remporter un nouveau titre dans cette compétition. Une perspective plus qu'envisageable, sachant que les Rémois luttent actuellement pour rester en Ligue 1, mais l'équipe parisienne doit se concentrer. Sofiane Amazian.
Si certains pensent que le PSG a déjà l'esprit tourné vers Munich et cette finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan, le capitaine Marquinhos a une réponse bien trouvée.
Pas juste disputer, mais gagner cette finale. C'est la meilleure des choses, c'est la meilleure des préparations.
Cette fois vainqueur de la compétition, le défenseur brésilien ne pense qu'au Stade de Reims, que les Parisiens n'ont jamais battu cette saison. La finale de la Coupe de France est un match spécial.
C'est très beau de jouer une finale au Stade de France, avec l'ambiance qu'il a, le stade à la moitié, il y a toute l'événement qui va avec. C'est les objectifs qu'on avait dans la saison, ça a été d'arriver dans cette finale, de toutes les compétitions possibles, le plus loin possible.
Même son de cloche du côté du coach espagnol Luis Enrique, si éventuelle déconcentration il y a, le prestige autour d'une finale de coupe doit remettre les idées en place.
Tous les joueurs professionnels savent que jouer une finale de coupe dans n'importe quel pays, c'est très particulier. Ça ne ressemble pas à un match de championnat, c'est un match spécial, chaque détail compte. Ce n'est pas difficile de se concentrer sur cette finale car c'est le seul match que nous pouvons contrôler pour l'instant. Aucun joueur ne sera déconcentré. Tous ne pensent qu'à cette finale.
Avant peut-être de soulever pour la première fois la Ligue des Champions dans une semaine tout pile, les Parisiens pourraient améliorer leur record et gagner une 16e Coupe de France.
Encore quelques heures de suspense avant la remise des prix à Cannes. Le palmarès du 78e Festival du film sera connu ce soir et la cérémonie ne sera pas affectée par une importante coupure de courant qui touche actuellement la ville du sud de la France et ses alentours. Le palais des festivals bénéficie d'un système d'alimentation électrique indépendant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite sur RFI, Carrefour du Maghreb.